Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
On va jamais y arriver.
Oh, mais depuis le temps qu'on repoussait l'échéance.
On n'aurait pas dû l'inviter.
Salut les amis. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Non, rien.
On a envie de mourir.
Ouais, bah, voilà, c'est un monument.
Voilà, quoi, je comprends. Ouais, c'est pour Notre-Dame. Vous êtes
triste. Non, c'est la fin de notre carrière.
On peut plus
Guillaume,
faire illusion.
Ouais, mais attendez, mais je vois pas le rapport là.
Guillaume, tu te rends pas compte, on reçoit le père.
Ah, bah si c'est celui qui est aux cieux là, on a bien vu qu'il était pas très présent en ce moment.
Non, notre père spirituel.
Mais c'est qui?
Enfin, c'est évident.
Bah oui, pour Charline, c'est Jean-Pierre Elkabbach. Pour Alex, c'est Didi Barbelivien, c'est ça?
Non, non, c'est Benoît Poulvord.
Voilà. Mais vous devriez être content de recevoir votre compatriote. Là. En plus, je suis sûr il est sympa, Paul Vord.
Oui, enfin, Paul Vord, il est peut-être sympa, mais Paul Vord, il est impressionnant.
Notre carrière va s'arrêter au lendemain de Notre-Dame.
Tu veux que je te chante belle?
Non, ça va, c'est mal comme ça.
Vous avez fini, vous, redressez-vous là-haut.
Non, mais laisse tomber, Guillaume, c'est lui qui a tout inventé.
Il a rendu la Belgique cool.
Sans lui, on fera encore que des blagues en prenant l'accent belge.
Mais faut pas se laisser abattre comme ça, là. Benoît Paul Vord, il fait des billes aussi.
Mais même pas, il a refusé Cinéman.
Ah oui, le mec a du flair quand même.
Tu vois, c'est compliqué de rencontrer ses idoles.
Bah, t'en parleras avec Pascal Obispo. Allez, cassez-vous, vous m'énervez là.
Allez,
écoutez-moi le camp, là, des petites bites comme vous, on n'a pas besoin de ça chez nous, hein. C'est la France, si on n'a pas le seum. Merde, mais oui, ils sont passés où? Wow! Revenez, gamin! C'était pour rire!
Bonjour la France Inter, bienvenue dans les Parcs Jupilix, cet espace qui dévoile les relations diplomatiques sulfureuses entre la blague et l'actualité. Et d'abord, Notre-Dame, s'il existe, Dieu est un fumeur de cathédrale.
Monsieur le curé est venu parce qu'il a eu une vilaine tornade.
Une mauvaise bourrasque qui a enlevé le toit de notre pauvre chapelle.
Voilà, et monsieur le curé désirait une petite aide financière.
Voilà. Tous à la flotte dès la maternelle, la ministre des Sports a dévoilé son plan aisance aquatique. Alors dit normalement, c'est un plan anti-noyade, car pour l'instant, un collégien sur deux en fin de sixième boit la tasse, même s'ils finissent toujours par remonter à la surface. Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que les eaux sont... Joli.
Après l'Argentine, le Pérou, le Chili et la Bolivie en 2020, le Paris-Dakar se courra en Arabie Saoudite.
On le récupère un peu partout, des fois en Mozambique, des fois sur la Nationale 7.
Et lui, son truc, c'est plutôt le Liège-Bastogne-Liège pour rester dans
c'est
le même
faux.
Bar au débar et à l'arrivée au débar. Ça commence bien. Allez,
bonjour, Charlotte Vanhoenacker, et bonjour à tous. Notre équipe, évidemment magnifique pour un invité qu'on attend depuis si longtemps. À 17h20, celle qui, dans la cinématographie de notre invité, aurait été une parfaite Bernadette, puisqu'elle se lève dépotrombinée pour faire du jogging. C'est Constance, bien évidemment.
J'ai rien compris.
Ben oui, bonjour. Je n'ai pas vu le film. De quoi on parle?
Très référence.
Ouais, bien sûr.
Du jogging.
Ben moi, je vais vous faire une chronique avec des trucs et des machins.
Très bien, ça voilà. Donne toujours très envie.
Oui,
volontiers.
C'est très teasing.
À 17h30, celui qui, dans la cinématographie de notre invité, sera évidemment le boulet. En tout cas, c'est comme ça que la moitié des Français qui ne l'aiment pas le surnomme. C'est Guillaume Meurice.
Bonjour à tous, je vais vous parler du barbecue d'hier sur les toits de Paris qui a mal tourné. Je suis allé voir les, je suis allé voir les Français qui paniquent, mais alors pas du tout, hein, puisque pour eux, c'est quoi?
La fin du monde.
Voilà, peinard. Vraiment, allez, on est sur une base vraiment.
Et enfin, à 17h40, celui qui, dans la cinématographie de notre invité, aurait été un excellent randonneur, car le storytelling, eh ben, quand on avance, chaque pas est une planche, chaque planche est un pas. Thomas Bidguin, n'est-ce pas?
C'est beau, Alex. Moi, je vais vous poser la grande question du storytelling. Et si?
Très bien. Voilà. Et voici celui qui va nous déglinguer l'open space. Vous êtes, je vous laisse nous
Benoît,
le dire.
Benoît.
Ah, c'est, ouais, c'est ça.
Ah merde.
C'est un petit peu plat.
C'était pas François Damien.
Rien n'est pire que d'annoncer. Il va tout nous casser.
Ouais.
Ouais, bah, ça va être un petit peu ennuyeux.
Bon, je vais m'en charger, ça, du côté ennuyeux, vous inquiétez pas.
On démarre par quel sujet? Parce que là, il y a une sorte de désordre, on annonce tout.
On va commencer par un petit sujet Taburin. Raoul Taburin a un secret, le film de Pierre Godot.
C'est pour ça que vous êtes là.
D'après l'œuvre de
Champé. Mais souvent, on se demande, mais pourquoi êtes-vous là?
Oui,
mais vous allez faire un petit peu de promo. En effet, je suis là pour défendre un film que j'aime énormément. On va passer vite le truc de la promo. En même temps, je trouve que ça vaut la peine d'en parler.
Je pense aussi. Vous êtes Raoul Taburin, l'orfèvre de la réparation de vélo. Le lourd secret qui remonte à la surface et qui bouleverse sa vie, c'est qu'il ne sait pas, qu'il n'a jamais su lui faire de vélo. Et l'arrivée d'un photographe joué par Edouard Baird, un photographe portraitiste dans le petit village, va être le déclencheur. C'est donc d'après l'œuvre de Sempé. Vous qui êtes un fondu de Sempé,
oui.
Vous qui dessinez aussi,
qui... Non, qui a essayé.
J'ai déjà vu.
Vous avez fait des études pour ça. Oui, vous avez fait des études.
Soyez pas gênés.
Non, mais ce qui est terrible, c'est... En effet, on est totalement dans le sujet. Parce que, à quel moment on s'arrête d'avoir fait des études de dessin? Est-ce que vous recevez un diplôme? On vous dit, après 4 ans, Voilà, vous êtes dessinateur. C'est un diplôme. J'imagine qu'il doit y avoir la même chose pour... je sais pas, diplôme.
Ouais.
Non, journaliste. Ouais, ouais. À quel moment on dit, à quel moment vous êtes devenu journaliste, à quel moment. Bon, on ne sait pas. Les études de dessin, c'est totalement. C'est une sorte de gros bordel. Tu finis, en général, avec une 10, une grande 10.
Distinction, hein.
Oui, c'est ça, chez nous, on dit grande 10. Bon. Et j'ai fait du dessin, donc j'ai terminé.
Mention.
Avec une. Ah, voilà, chez en France, vous direz que mention.
Traduit, traduit.
Mais ça ne fait pas de moi un dessinateur. Donc, mais j'ai fait du dessin, et Sampé fait partie de ma vie.
Bah oui.
Mais vous l'avez encore du dessin, sur l'esprit de Sampé. Ouais.
Exactement. Donc vous êtes un véritable fondu, c'est-à-dire un fin connaisseur de Sampé. Donc vous qui connaissez très très bien son œuvre, est-ce que ça vous a permis d'épouser plus facilement la poésie de votre personnage Raoul Taburin? Parce qu'il est rudement poétique.
Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être. Non, je pense que j'ai beaucoup d'affection, en dehors même du film, j'ai beaucoup d'affection pour les personnages de Sampé, parce que c'est le quotidien, c'est l'ordinaire. J'adore les gens dans les arrêts de bus, par exemple. Prenez un arrêt de bus, vous pouvez raconter n'importe quelle histoire de la vie dans un arrêt de bus. Vous observez un arrêt de bus. Sampé a ce don inné d'observer les êtres humains dans quelque chose de très simple, et tout à coup qui détermine une sorte de destin fabuleux ou de destin à pas accompli, de peine perdue.
De solitude.
Absolument. Mais rien n'est plus beau qu'une solitude, comment dirais-je, assumée. Tu vois, ce que j'aime le plus chez Sampé, ce sont des petits hommes vainqueurs, et en même temps tout le monde dit, mon Dieu, qu'il est petit par rapport à l'élément général,
ouais.
Et il est là quand même en train de dire, je vous cite un seul petit dessin, puis j'arrête de prendre la parole, mais... Ces deux petits hommes qui marchent et le vent souffle leurs cheveux. Le génie du dessin de Sampé, c'est quand même d'arriver à faire comprendre que le vent souffle leurs cheveux. Et puis le type dit à son ami, tout petit, on imagine l'immensité. Il n'y a pas besoin de dessiner la mer. Et il dit, j'en aurais distribué des tordioles. Hein. Petit homme, un petit peu querelleur belliqueux. Et en fait, ce qui est génial chez Sampé, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant? Quelle est sa colère? Qu'est-ce qui se passera après? C'est quand ton ami te dit... Quand on dit « c'est du Sampé », c'est le moment dans la vie où on se dit « c'est tellement simple, absurde, et c'est comme un bruit dans le silence
voilà. ». Il y a une colère chez Sampé, parce que c'est rarement des mots qu'on associe à ses dessins. Il y a un point de vue, il y a une critique, mais colère.
Non, j'ai discuté un jour avec Sampé, on va pas faire les grands experts de Sampé, mais il est pas très facile à... comment dirais-je, à gratter, quoi.
Ah, ouais.
Il n'en parle pas, ce qui le rend, à mes yeux, encore plus attachant. Je pense qu'il y en a une, ça c'est mon point de vue, il n'aime pas les psys. Je pense c'est la seule fois où je dis, il continue pendant 30 ans à se foutre de la gueule des lacaniens, des psys, parce qu'il est quand même capable d'écrire des textes entiers. Et hier soir, on faisait une avant-première avec lui, et je lui dis, je l'ai rencontré quand même trois fois, j'ai qu'une question à vous poser. Est-ce que vous avez fait une thérapie?
Ouais.
Ah bah ouais, vous pensez bien qu'il m'a envoyé chier. Il a dit, mon vieux, les questions, c'est vous qui vous les posez, c'est pas moi qui répond.
Raoul Taburin, pour y revenir, sa poésie à lui aussi et sa solitude, parce qu'il y a plein de personnages de Sampé qui sont seuls, qui ont parfois une frustration. Lui, Raoul Taburin, il est entouré, il y a sa femme Suzanne Clément, il y a ses enfants, etc.
Expliquez peut-être sa frustration, parce qu'on n'en a pas parlé.
Bah si, j'ai expliqué au début que c'était l'orfèvre de la réparation des vélos, son lourd secret remonte à la surface et bouleverse sa vie, c'est qu'il n'a
Ah, mais c'est
de
beaucoup
vélo.
De phrases pour dire une phrase. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord.
Ah ouais, parce que si ouais, ma mère, elle est devant le truc, elle s'est dit, mais de quoi parle le film?
Bah, c'est ça, je l'avais déjà dit.
C'est un type qui aime le vélo qui sait pas. C'est un type qui aime le vélo qui sait pas.
Au moment où les gens prennent l'émission.
Je peux le répéter, hein.
Ils s'assoient vite, ils prennent leur café.
C'est ça.
Vite. Ils sont dans la voiture, ils disent, tac, ils disent, hop, ils disent leur enfant derrière, tais-toi. Et la phrase était un peu complexe. Je vais la faire un peu simple pour les gens qui sont dans l'embouteillage ou celui qui a dit, bon, c'est quoi l'histoire exactement? Raoul Taburin a un secret. Depuis qu'il est petit, on lui a demandé de faire du vélo. On lui a laissé ses roulettes, et puis non, il ne sait pas faire de vélo. Mais il préfère faire semblant, par un concours de circonstances, dire « je suis le champion du vélo » et arriver à mentir toute sa vie, jusqu'à ce qu'arrive un moment, exactement comme un type qui ne saurait pas lire, ni lire, ni écrire. Vous pouvez, je suis sûr que les gens qui ne savent ni lire, ni écrire, sont capables d'inventer des systèmes pour dire « alors je dois aller là, là, là », jusqu'à ce qu'on vous dise « mais lis-là la préface, pardon ».
Et c'est ça qui le rend seul. C'est son secret.
Comme les psychopathes.
C'est
si vous ne voulez pas être pris, ne vous entourez pas d'amis.
On va y revenir au film, bien sûr. On a choisi un sujet pour en reparler. C'est Raoul Taburin a un secret. Le film de Pierre Godot, d'après l'œuvre de... Moi, je suis avec vous, de toute façon. Cher auditeur, peut-être vous vous sentez seul comme un personnage de Sans Paix. Et moi, je suis avec vous. Je suis avec vous, je vous lâcherai pas. Je vous raconterai l'histoire de l'émission. Je vous dirai tous les acteurs.
Madame, vous êtes seule. Vous êtes en train de parler seule, madame.
Non, l'auditeur est là, je le vois. Il est dans son canapé, il est là, il se dit, j'entends les choses en stéréo, mais pas avec la même voix. Les polyphonies sont avec nous. Il y a Édouard Baird, Suzanne Clément ou Grégory Gadebois, entre autres, dans ce film de Pierre Godot, d'après l'œuvre de Sans Paix, en salle demain, et que nous avons beaucoup aimé. Nous vous le recommandons.
Mais j'adore vos gestes.
Oui, j'envoie le disque là, j'ai fait un petit moulinet. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly Tangled on the chain.
Je vais rencontrer Maurice, il est beau comme un cœur.
Cher auditeur, je suis toujours là. Je ne te lâcherai pas. Tu viens d'écouter.
Tu dois te gêner parce qu'il est là. Elle est dans la loge. Elle dit Maurice, putain, mais t'es complètement fou, tu vas me griller.
Et comme nous avons une merveilleuse technicienne, Laure Cochet, avec nous, quand vous faites vos conneries, elle baisse vos micros. Et quand je dis des choses intéressantes, elle monte mon micro. Pour entourer Benoît Poulevard.
Pardonnez-nous, on a parlé très souvent.
Est-ce que vous pouvez faire un effort pour ne pas. S'il vous plaît. J'étais en train de parler avec Monsieur Maurice et mes amis, et une amie qui est là-bas derrière.
Oui, maître.
On essaye de discipliner.
Oui, maître. Hein, oui,
on essaye de travailler discipliné.
Voilà. Guillaume Maurice Raoul est là. Raoul Taburin.
Non, Taburin. Un Taburin, tu sais ce que c'est? Clac, clac, c'est une soirée hippie.
C'est un tambourin.
Ah, c'est comme ça que tu vas faire la promo. Tu... Regarde les attachés de Pocini. Allez, on se lève.
Il y a une qui s'est pendue là.
On se casse. Ouais. Raoul Taburin, madame Père Lachette, mais enfin. Une approximation sur le titre d'un film. Alors. Raoul Taburin. Viens là, que je te donne un truc.
Il est 17h21, je suis déjà épuisé.
T'as tourné ça en combien? Dis en combien? 2018, 17? Non, on s'en fout. Réponds, je te dis.
François Damiens.
Il est où?
François Damiens est avec nous. Et pour entourer François Damiens.
Guillaume Meurice, Constance et Thomas Bidguin. Je l'ai dit vite pour ne pas être interrompu.
François Damiens, l'acteur?
Les informations.
Le journal de presque 17h.
Il faut absolument que je place un artiste français. Est-ce que tu peux m'aider?
On va en parler tout à l'heure.
Notre-Dame, l'inquiétude demeure.
Oui, puisqu'après 24 heures se sont écoulées depuis l'incendie, pas de chanson hommage de Francis Lalanne encore.
LVMH et la famille Arnaud vont donner 200 millions pour la reconstruction.
Ouais, pour vous donner une idée, c'est le prix de Kylian Mbappé.
Il y aura des brèves?
Oui, car un malheur n'arrive jamais seul, il y aura des brèves.
Comme s'il n'y avait pas suffisamment de malheur.
On commence donc par l'incendie qui est survenu hier.
Oui, qui est la pire chose qui soit arrivée à Notre-Dame de Paris depuis la comédie musicale, bien sûr.
Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai enregistré une version hommage, justement.
Ah non.
Je me suis dit, ça ferait plaisir de...
On est tous comme Stéphane, on est tous en berne.
Ouais, c'est très beau, mais on va s'arrêter là déjà, non? Ouais,
si
je pense. Non, mais si.
Dieu existe, hein, faut croire qu'il y berne.
Non, ok, on va s'arrêter, c'est bien.
Oui, oui. Avant, c'est pas fini, avant encore tout le reste.
Si, hein, c'est fini. Bon. Parlez-nous plutôt de Stéphane Bern.
Bah, justement, qui a déclaré dans Le Parisien, c'est comme si ma meilleure amie allait mourir.
Et encore, sa meilleure amie, il est jamais rentré dedans. Ouais,
c'est élégant. Allez, c'est élégant. Okay. Je préfère encore quand je chante.
Oui, ça va. Voilà. Que tu soutiens la présidente de la Ligue de football professionnelle. Promet que le foot français va se mobiliser financièrement.
Oui, le foot français ferait mieux de se mobiliser pour la reconstruction de l'Olympique de Marseille, parce que le club est en plus mauvais état que Notre-Dame de Paris.
C'est bizarre que le foot veuille aider dans la mesure où les supporters chantent souvent ce soir.
Vous oh, alors non, ce soir, non, non. Si vous chantez, moi je mets la suite de la chanson.
Oh, non.
Apparemment, c'est même pas la faute de l'islam. Bah non, eux, ils auraient recouvert notre
Ouais, bah on arrête. Hein. Revenons à l'actu.
Il y a quand même, je fais bien.
Ouais, parlons d'autre chose.
Oui, bah voilà, c'est pas fini.
Non, 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 parlons immigration. Oui. Marine Le Pen a déclaré les migrants, c'est comme les éoliennes. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en est, mais personne veut que ce soit à côté de chez lui.
Alors que Marine Le Pen, c'est comme les centrales à charbon. On sait que c'est extrêmement nocif, mais on a du mal à s'en débarrasser.
Économie, à présent en Vendée, oui, la production a été arrêtée chez Fleury Michon à cause d'un virus informatique.
Tous les coups, c'est un virus propagé par un port USB. Ah oui, c'est là, Fleury Michon.
Sport avec le Dakar qui quitte l'Amérique du Sud et aura lieu en Arabie Saoudite à partir de 2020 et pour 5 ans.
Mais oui, c'est pas con. Quitte à gaspiller de l'essence bêtement, autant le faire en étant directement à la source.
Les JO 2020 à Tokyo, pour éviter les grosses chaleurs, le marathon s'élancera à 6h du matin.
Alors que pour éviter les grosses chaleurs, l'idéal est de ne pas courir, bien entendu.
Allez, Benoît Poulvord attend les brèves.
Oui, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des milliers d'hommes se sont injectés de l'huile dans le pénis pour l'agrandir. C'est complètement con, tout le monde sait que le lubrifiant, c'est pas dans le pénis qu'il faut le mettre, mais sur le pénis, bien évidemment.
La dernière.
Oui, Afrique du Sud, saisie record, 167 cornes de rhinocéros. On n'avait plus vu autant de cornes depuis Valérie Trierweiler à l'Elysée.
Non, c'est pas très élégant de finir là-dessus.
C'est vrai, c'est pas élégant. Je propose qu'on finisse en hommage avec une chanson.
Oh non.
Oh, Castaner, Macron, tous au labeur. C'est le moment c'est de montrer vous
je vous imagine le matin
sacré cœur.
Quand vous la chantez. J'imagine que tous les matins vous devez préparer la rubrique. Tu dis bon, j'ai une bonne idée, oui, on va reprendre. Mais je suis assez reconnaissant.
C'est beau.
Parce que vous dites en plus. Vous avez dû réserver un siège, je dis, oh, vite. Parce que, entre deux discussions rigolotes et tout ça, et tu te dis, il va quand même que je fasse les trois phrases. Et il y a un type qui dit, oh, tu m'emmerdes. Hein,
c'est Charline qui dit ça.
Alors, on y va, vite. Alors, on va pas faire quatre prises. Hein. Donc, c'est bravo. Vrai. Et c'est bravo vrai à celui qui vous a enregistré.
Merci Benoît.
Anne-Sophie très bien la donne à la réalisation. Merci. Bah, moi, j'ai une autre version. C'est parce que Notre-Dame est en soins intensifs, ses jours ne sont pas en danger, parce que nos plus grands patrons sont à son chevet pour financer la reconstruction. Et une fois qu'elle sera de nouveau sur pied, on sera peut-être pas là pour voir la fin des travaux. Hein.
Non, par contre, on aura les embouteillages.
Quand elle aura retrouvé sa charpente, elle sera plus fringante que jamais. Et moi, j'aime cette version.
Il est venu le temps des cathédrales.
Oui, c'est pas mieux.
C'est fort.
Qui c'est qui a fait ça?
Ta mère.
Ah,
oui. Mais ça reste, ta mère, c'est un groupe de rigolos québécois qui s'appelle Ta mère. Je, voilà. Donc, ben, on a choisi ce sujet parce que bon, on est un petit peu obligé aujourd'hui. Hein. Je me demandais, Benoît Poulvord, jusqu'à quel point ça vous touche la destruction de Notre-Dame?
Ah, c'est pas la destruction, c'est le destin qui s'abat sur quelque chose. Mm-hmm. Tu te dis, moi, je l'ai vu parce que j'étais en train de faire de la promotion et j'ai traversé le pont là où les gens accrochent des cadenas, tu vois. Donc il y avait quand même beaucoup de gens sur le pont, alors que c'est interdit maintenant de mettre des cadenas. Mmh. Et alors j'ai vu les flammes. Et non, ça m'a vachement touché, ouais. Alors, mais ça m'a vachement touché parce que c'est quelque chose auquel tu ne touches pas. C'est sacré.
Ouais,
un truc où tu te dis ça ne peut pas être. Et c'est là que tu te dis ouais, le monde est quand même incroyable. Mmh. Et tu te dis incroyable, ça m'a touché, ouais. Bon, en même temps, 10 minutes plus tard, c'était oublié, on a changé de rue, mais mais ça m'a quand même vachement ému, je suis croyant en plus.
Ouais.
J'ai cru que c'était un signe du destin.
J'allais dire votre enfance chez les jésuites à Godine, c'est remonté à la surface un peu ou pas?
Bah, sur ma mère aurait dit, je suis sûr que si, j'ai pas eu ma maman depuis parce que je suis toujours à Paris.
Ouais.
Ma mère m'a dit Dieu est né dans une étable. Donc on s'en fout d'une église qui est. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que c'est le symbole que ça représente.
Jésus qui a dit des conneries.
C'est Jésus qui est dans les tables.
Oui,
mais. Oh, mais elle savait pas bien.
Le fils, c'est le... Bon, écoutez, les gars, on va pas commencer à discuter.
Bah, c'est parce que.
Maudit protestant. Jésus, bah Jésus si tu préfères, oui. Le fils de Dieu, c'est qui ?
Vous qui êtes un grand lecteur, il y a les ventes de livres de Victor Hugo qui explosent sur Amazon. Tout le monde achète.
Personne
ne
lira. Il cherche juste les trucs avec. Il vaut mieux stabilo bosser. À quel moment la cathédrale prend feu ? On ne sait pas. Donc, est-ce que c'est un signe de Dieu ? Et je suis sûr que dans deux jours, on va avoir tous les complotistes. Il fallait vous y attendre.
Ouais. Ah ben, ils sont déjà là, les complotistes.
Il y en a dans ma chronique.
Je pense qu'on va les
voir. Je veux
t'entendre. À 17h35.
Ouais. Ah oui, on va les
voir. C'est un signe incroyable. Et ce qui était terrible, c'est qu'il y avait un ciel bleu.
C'est quel signe ?
Un ciel d'une beauté. Ouais. Et tout à coup, il faut quand même reconnaître que Dieu est taquin. Parce qu'il fait brûler son église dans un ciel merveilleux. C'était vraiment, il y avait une lumière que je trouvais merveilleuse. C'est comme le 11 septembre, et le ciel est bleu, et tu te dis parfois, le graphisme, c'est comme le cinéma. Ils adorent filmer dans les endroits graphiques, et ils veulent reproduire la misère, parce que c'est graphique. Le problème, c'est que vous n'êtes pas aussi fort que les éléments, ni que Dieu. Parce que Dieu nous a mis un ciel bleu pour dire, je suis en colère. Je suis en colère. Ah, vous allez me dire, monsieur, vous êtes en train de faire du prosélytisme sur France Inter ? Je dis, un peu.
Et Dieu habite Bruxelles.
Et pourquoi il est en colère, Dieu ? Parce que vous avez dit c'est un signe, mais quel signe ?
Il faut se recentrer sur la spiritualité. Se recentrer. Je ne pense pas que Notre-Dame de Paris incarne la foi, mais elle incarne un symbole. Ce que je suis en train d'expliquer, je ne suis pas en train de dire que vous devez croire en quoi que ce soit, je m'en contrefiche.
Non,
en revanche, ce que je trouve assez taquin, j'ai toujours Dieu est taquin. Pourquoi le ciel est si beau ? Pourquoi le ciel est si beau ? Pourquoi le ciel est si bleu ? Pourquoi les... Pourquoi... souvenez-vous de cette... je ferai bien un livre là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Et, mais souvenez-vous quand le truc explose en l'air, et les astronautes sont dedans, et ça fait une sorte de scorpion. Et on ne peut s'empêcher de trouver ça extrêmement beau. Oui. Alors on pourrait se poser la question de la beauté dans l'horreur.
On est tous restés très très accrochés à toutes les images.
Voilà. Et je me demande parfois comment un journaliste, un photographe se dit, dois-je photographier le constat de la misère ou la beauté des choses qui m'apparaissent ? Et ça, je lève un débat, mais je trouve qu'il est un petit peu tôt, à moitié d'embouteillage pour aborder ça. Charlie !
Merci, Benoît. Écoutez, à côté de vous, il y a Constance.
C'est la voix. Casser la foi, casser la foi, casser la foi.
Non, arrête tes conneries, Patrick. Ne casse pas ton gros organe. Et surtout pas le 16 avril. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la voix. La voix, vous savez, ces sons que nous produisons avec nos cordes vocales, qui rebondissent dans nos bouches et qui sautent de nos langues comme d'un plongeoir rose et mouillé. Oui ! Ce sont des mots qui sautent. Pantoufles, zigotos, morilles, fistules, par exemple. La voix, cet organe avec lequel nous pénétrons moult trous d'oreilles pour titiller le cerveau, le cœur et parfois même l'âme. Pas la chanteuse. Au moment où je vous parle, je fourre un paquet de conduits auditifs et j'adore ça. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'on cache tant nos zizi et pas plus nos voix. Parce que dis donc, il y en a des drôlement cochonnes, hein, des plus coquines que des belles culottes du dimanche avec des dentelles et tout. Hein. La voix de Barry White, je la trouve terriblement sexy. Je pourrais la manger. Je pense qu'elle aurait un goût de caramel au beurre salé. Vous remarquerez que je parle de la voix de Barry White au présent, alors qu'il est mort, mais sa voix reste immortelle. Par contre, Benjamin Biolay, il pourrait crever et sa voix avec, ce serait chouette.
Oh, c'est méchant.
Oui.
On ne le pense pas.
Un peu.
Un être humain et sa voix, c'est une union à vie, plus longue et solide que n'importe quelle histoire d'amour. Va te faire bouillir le cul, Shakespeare, avec tes histoires d'amour en mousse. Ma voix et moi, on s'est rencontrés au tout départ et on se séparera à la toute fin. Et entre les deux, on compte bien sonoriser la vie et les émotions. Voici d'ailleurs un extrait de notre partition. La joie. Oh, une yaourtière pour la Saint-Valentin. Merci, depuis le temps que j'en rêvais. L'étourderie. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mes gosses ? Ah, flûte, j'ai pas de gosse. Maman ! Ah si. La peur. La télé ne fonctionne plus, Didier. On va être obligé de se parler et de s'intéresser l'un à l'autre. Ne dis pas de conneries, Monique. Appel Darty, ils peuvent pas nous laisser comme ça. L'amour. Viens, Mélanie, sur les genoux de tonton. Tu sais, tonton, il a très mal en haut des jambes. Il faudrait bien lui faire un petit bisou, mais faudrait le dire à personne. Il paraît que notre voix intérieure est notre second visage. Moi, je pense que ma voix intérieure, c'est Satan. Par exemple, quand je fais la queue quelque part et quelqu'un me double, elle me dit « Bute-le ! Bute-le ! » C'est vrai. Ou quand quelqu'un fait trop de bruit en respirant à côté de moi, elle n'arrête pas de me dire « Il fait exprès de respirer fort, hein, pour nous pousser à bout, c'est un plan, c'est une personne qui aime les gifles. Il faut lui faire plaisir en lui mettant des tartes dans sa gueule !» Quand ma voix intérieure est au max de la violence, c'est-à-dire tout le temps, j'arrive à la canaliser en détournant son attention. Je lui dis « T'inquiète, je gère le conflit. Toi, pendant ce temps-là, va chercher une pelle pour creuser un trou dans la forêt pour faire disparaître le corps. » Et elle s'en va toute joyeuse. Alors, comme j'avais pas de chute à cette chronique, je propose une idée cadeau pour faire pleurer vos amis. Offrez-leur des oignons.
C'est Constance.
Pardon. Eh oui, Constance avec nous.
Et Constance, bravo.
Bravo.
Merci.
Je vais chercher une pelle.
Là, je moulinais, puis le disque.
Ouais, j'ai vu le petit geste. Et voilà. Dans le genre de petites phrases un peu dégueulasses. Non, je sais. Non, après, on sera poursuivi.
De l'ampleur, pas d'empereur, même si l'empire est là. Tous à dire trop peu, pieds noirs et renois. We don't give a fuck and we pray every day. Ici j'ai tout fait, je sens plus mes doigts. Pourquoi la France est venue me chercher, mais ne veut pas de moi?
Empire, Benoît Poulvorde
avec
nous.
C'est très long.
Pour Raoul Taburin a un secret, le Absolument. Film de Pierre Godot, d'après l'œuvre de Sampé, il sort en salle demain avec Édouard Baird, Suzanne Clément, Grégory Gadebois, Victor Assier, Ilona Bachelier, entre autres. C'est un très 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 beau film.
Et le soleil.
Poétique et le soleil.
Et le soleil, la Drôme occidentale.
Exactement. Benoît Poulvorde, vous voulez nous faire des
Non, je voulais vous donner, parce que j'ai été voir cette expo juste avant de venir. J'aime bien briller un petit peu pour dire que Paris est quand même une des villes qui recèle le plus de galeries au monde. Et l'occasion vraiment de rencontrer des tas de gens qui s'exprime. Donc, je pense que ça rassure toujours quelqu'un de ne pas faire de la promo que pour lui, mais de parler des autres. Et j'ai été voir Jean-Michel Autoniel. C'est un Français. Il fait un truc qui s'appelle Oracle. Alors, un truc, une expression libre. Et c'est très, très beau. Ça se trouve à la galerie Perrotin, une petite galerie qui démarre. Toute petite. Ce sont des gens assez humbles. Et c'est leur humilité qui m'a touché. Et c'est fait à base de toutes petites choses. Et je vous invite à aller le voir. Ça coûte extrêmement cher ou pas cher, selon... qu'on se situe par rapport à l'envie qu'on a de l'en voir. Mais la question est surtout de découvrir qu'il y a des gens, plein de gens s'expriment. Le cinéma est quand même un art assez pauvre. Hein. Donc, je me fais toujours une joie comme Gainsbourg de dire la chanson est un art mineur, alors que tu te dis, monsieur Gainsbourg, vous êtes quand même le maître de tous dans l'art mineur.
Donc, vous voulez qu'on vous dise, monsieur Poulvord, vous êtes le maître de tous au cinéma?
C'est ce que j'attendais, malheureusement. Alors que nous sommes compatriotes, non. Parce que vous dites, je les connais, tes vieux tours, Poulvord. Mais...
La chronique est-il un art mineur? Avec Guillaume Meurice.
Ça dépend laquelle.
Ben, je vais vous parler de Notre-Dame, évidemment. Catastrophe nationale. On a une pensée pour Jeannette Bougrab, déjà la petite amie de Monseigneur André 23. Jack Lang aussi, terrible. Hein, on l'a entendu, il était sur France Inter ce matin. J'ai vu les images, j'ai cru que c'était une gargouille au début. C'est vrai qu'il y a une restauration de visage qui a foiré, à un moment donné, chez Jack Lang. Hein, c'est l'ancien sinistre de la culture. Une pensée également pour Stéphane Bern, qui vit ses pires moments depuis la gastro de son caniche le mois dernier. François Pinault et Bernard Arnault ont été obligés de se sacrifier pour faire un don défiscalisé. Enfin, c'est vraiment des heures sombres. C'est terrible. Je me suis rendu sur place ce matin où l'émotion est intacte, mais où les experts sont déjà au travail. J'en ai rencontré plein, des vrais. Hein. Je vous parle des vrais experts, pas les mecs payés par je sais quel organisme à la con là. Des experts qui bossent à l'instinct. Moi, j'aime ça. Voilà, c'est les meilleurs. Souvent, c'est mes préférés. Allez, on commence avec un premier.
Moi, je pense que ça a été fait un peu exprès pour ne pas que le président passe à la télé. Hein.
Ah, vous pensez?
À mon avis, ça a dû, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas logique.
Il y a quelque chose qui n'est pas clair.
Ça tombe ce jour-là. Ça m'étonnerait que ce soit un ouvrier. Hein.
Mais alors, ce serait quoi? Ce serait l'équipe de Macron qui aurait foutu le feu à Notre-Dame?
Pour moi, c'est quand même bizarre que ça tombe ce jour-là.
C'est bizarre. Surtout que moi, j'étais dans le coin hier à 19h. Il m'a semblé entendre Sébastien Lecornu dire « Bon, ben, j'ai fumé une petite clope, moi, hein, sur les toits. On a une belle vue. Coïncidence ?» Je ne crois pas. Tout ça est bizarre. Bien sûr, c'est le complot. Hein. Je rappelle que le 11 septembre 2001, George Bush devait aller bouffer chez sa belle-mère. Faudrait peut-être pas nous prendre pour des cons. Hein. Je crois que mon enquête commence très bien. Ce monsieur est sur une bonne piste, mais qui dit enquête dit contre-enquête. Allons voir un autre expert.
Quand je vois de quoi ont été capables les gilets jaunes, je veux dire, de brûler une préfecture, de s'attaquer à un monument national comme l'Arc de Triomphe...
Bon, ça pourrait être un coup des gilets jaunes.
Ah oui, moi je suis persuadé.
Alors ça relance tout. Alors là, ça serait un gilet jaune sur la lancée du Fouquet's. Les mecs ont pris la confiance, ils se mettent à tout cramer. Alors c'est possible, hein, c'est possible. Alors Castaner est revenu de Mayotte en catastrophe. Hein, je vous rappelais qu'il était, ouais, il était à Mayotte, il mixait au Club Libertin Notre-Dame. Coïncidence encore. Hein, cocktail à volonté, gratuit pour les Vierges Marie avant minuit. Donc, on devrait en savoir plus avec Castou. Mais moi, j'ai pas le temps d'attendre, alors je continue mon enquête avec une experte.
Ça peut être un malfaisant ou un attentat, maintenant une nouvelle mode d'attentat. Mais alors, ce que je déplore fortement, c'est et la mairie d'Algo, toute la clique, c'est des connards, ces gens-là. Moi, j'en ai ras-le-bol de la mairie d'Algo, avec tous les trous partout. On attend les bus plus de 25 minutes maintenant, mais il faut la virer, cette bonne femme.
Alors, est-ce que là, il y a un rapport entre Anne Hidalgo et l'incendie?
Elle est nulle.
Elle est nulle en tout, en bus, en extinction d'incendie, elle est nulle. Franchement, si vous avez un feu de cheminée ou un nid de poule, n'appelez pas Anne Hidalgo, elle est nulle. Là, elle est venue, elle n'a même pas de seau pour éteindre, elle est venue comme ça, avec son sac à main à la con, même pas un Vélib, elle n'a rien du tout. Bon, je suis d'accord avec cette dame, d'ailleurs, j'ai continué avec la dame.
Là, comment elle aurait pu réagir?
Trump a dit, un Canadair là-dessus, il avait une idée. Mais enfin, de toute façon...
Mais c'est vrai qu'il avait eu une idée.
Il a eu une idée, mais bon.
Mais bon, voilà, on n'est pas ambitieux en France, voilà, ça c'est le problème, voilà. Ils ont les experts Miami, on a Joséphine Ange-Gardien, ça c'est les Américains. Trump, il a eu l'idée du Canadair, 600 tonnes d'eau, on rase tout, on fait un Burger King. C'est quand même pas compliqué, bordel. Il est comme ça, Trump. Mais ouais, mais c'est les solutions, quoi. Quand il voit un enfant en flamme devant lui, il éteint un coup de pelle. Voilà, ça c'est l'efficacité. C'est Trump, voilà. Alors, continuons quand même, parce que moi aussi j'ai une théorie. À mon avis, c'est un coup de Dieu. Voilà, parce que de toute façon, ça fait un moment qu'il nous a lâché. Dieu, on voit très bien, ça part en sucette, ce monde. Hein, sinon, on n'aurait pas les émissions d'Hanouna et les trottinettes électriques. Donc, c'est lui qui crée le bordel. Et Dieu, il était là hier soir.
Ben oui, Dieu, il est partout. Il est partout, mais il était là, mais il peut pas, c'est pas lui. C'est pas Dieu.
S'il est partout, alors il était à Notre-Dame aussi.
Ah oh ben oui.
Bah alors il aurait peut-être pu éteindre l'incendie, non?
Non.
Pourquoi
non.
Il a pas pu?
Parce que ben je sais pas, il pouvait pas l'éteindre ou.
Il a peut-être pas la formation de pompier.
Non, il a la formation de tout, hein.
Ah bah alors.
Ben oui. Il a la formation de tout.
Bah alors, qu'est-ce qu'il a foutu?
On ne saura pas.
Bah, c'est un peu facile. C'est un peu facile. Le gars, il a un fils qui marche sur l'eau et il n'est même pas capable de venir filer un coup de main pour en balancer sur la charpente. Ça commence à bien faire les conneries, quoi. Tout Dieu qu'il est, il va bien se calmer, quoi.
C'est un signe de Dieu, peut-être. Sait-on jamais, hein. Mais c'est difficile.
Mais enfin, alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire?
Convertissez-vous. C'est ce qu'on nous dit toujours. Convertissez-vous. Vous n'êtes pas assez pieux, enfin, qu'est-ce que vous voulez.
Ça veut dire qu'il aurait foutu le feu à sa maison pour nous...
Ben oui, c'est comme ça.
Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça, ça fait partie des contradictions de Dieu qu'on retrouve chez les êtres humains. Allez vite, envoyez vos dons pour qu'on puisse à nouveau bientôt prier dans ce beau bâtiment pour tous les humains qui crèvent chaque jour dans la misère. Ainsi soit-il.
Guillaume Meurice, merci. Et pour être tout à fait précis, bravo. Pour être tout à fait précis, vous étiez parti sur un angle de questionnement « Dieu existe-t-il ? » Oui. Et naturellement, les gens sont allés vers le complot, ce qui vous a fait glisser sur ce thème.
Oui, je me suis dit « Ouh là là, il y a des experts, allons-y sur le complot. » Je pensais pas aller à...
C'est-à-dire que c'est pas vous qui avez tout de suite orienté le
non,
truc, c'est venu naturellement.
J'oriente jamais, vous savez.
Non, mais, ça raconte quelque chose quand même, c'est fou, non ? Benoît Poulvorde avec nous. Il est Raoul Taburin au cinéma, d'après l'œuvre de Sampé, et le film sort en salle demain, film de Pierre Godot qu'on vous recommande chaleureusement.
Vous êtes gentil.
Mais vraiment, c'est sincère. La moitié des petits Français ne sait pas nager. Attention. Ce qui cause de nombreux drames. Et la ministre des Sports lance un plan anti-noyade qu'elle a sobrement baptisé plan d'aisance aquatique. Beaucoup moins anxiogène. C'est très français, cette reformulation. Parce que plan d'aisance aquatique, n'est-ce pas?
Et donc...
On dit, les Français disent je vais à la piscine. En Belgique, on dit je vais au bassin.
Oui. Au bassin, quelle joie de surnager est ainsi, presque nu, dans le courant d'une onde pure, les narines vivifiées par cette bonne odeur de chlore. Mais attention, une pierre de sa frime, comme l'on dit, ne doit pas faire perdre à l'esprit les mesures les plus élémentaires de sécurité pour l'usager. Voici donc quelques accessoires. Le casque de bain, la pince en nez, les lunettes nautiques pour admirer les fonds bordereux. Et enfin, bien sûr, contre les vérules aux pieds, une bonne paire de chaussettes.
Benoît Poulvorde aura reconnu, comme tous les Belges, faux contact de avec Manu Taureau.
Qui nous a quittés trop tôt.
Oui, exactement. En 2000, il nous a quittés. Ça date des fin des années 90 sur Canal Plus Belgique, puis sur la RTBF. Voilà, donc il y a un changement de méthode en France pour apprendre à nager et qui s'annonce dès la maternelle, tous à la flotte, avec des séances plus longues et plus fréquentes pour vraiment prendre ce problème à bras-le-corps des petits Français qui ne savent pas nager assez tôt. Benoît Poulvorde, Raoul Taburin, son secret, c'est qu'il est l'orfèvre de la réparation de vélo, mais il ne sait pas faire de vélo.
Vous avez raison de faire le lien. Pardon, je vous interromps.
Est-ce que c'est
plus avouable ? Non, ça pourrait être aussi simple que ça. Imaginez-vous avoir une boîte de nuit gigantesque avec des fêtes, vous savez, comme on voit à la télévision, les fêtes à Miami et tout ça, et vous ne savez pas nager. On jette les filles dans la piscine, enfin qu'on a beaucoup bu et qu'on a dansé, mais vous ne savez pas nager. Donc c'est un petit peu ça, vous avez tout à fait raison.
Parce que vous, c'est pour pécho en boîte de nuit que vous aimeriez savoir nager.
Non, c'est l'image que je me fais. Des...
C'est bien, ça peut motiver les jeunes.
Non, parce que je pense que personne ne peut se dire qu'il a dragué en piscine. Non. Ou alors, non.
Si, les maîtres nageurs, quoi, c'est tout.
Ah ouais. Mais souvent, ils sont plus âgés. Ah ouais. Ils ont trois fois l'âge de la petite fille. Non.
Il faudrait pas apprendre.
Attention, je vais avoir tout le congrès des maîtres nageurs. Vous venez d'accuser tout le milieu des maîtres nageurs de faire l'amour avec des enfants plus jeunes. Non, je dis, aucune personne sur le bord d'une piscine ne drague au bord d'une piscine, à moins qu'elle soit dehors, dans une soirée où il y a de l'alcool, où il y a de la musique.
Mais est-ce qu'il est
et
plus... Est-ce qu'il
est plus... L'apprentissage. Est-ce qu'il est... Apprendre à nager.
Ouais. Est-ce qu'il est plus inavouable de dire « je ne sais pas faire de vélo » que « je ne sais pas nager » ?
Il est plus inavouable de dire « je ne sais pas faire le vélo » parce que nager, ça reste quand même une sorte de luxe. C'est-à-dire, c'est presque de l'ordre
c'est
de...
C'est moins accessible.
De presque du... Bon, c'est presque un luxe, nager.
Mais c'est bien faire ça, vélo, c'est bien ça le problème. C'est bien là où l'école a un rôle à jouer, c'est que c'est moins accessible, la natation.
Oui, c'est presque un luxe. À partir du moment où on nous a appris quand on était petit, et Dieu sait si on a détesté ça, et vous aviez la chance, vous, de pouvoir dire... Je suis dans une sale période. Nous pas.
Pour les filles.
Alors que moi, et pour tous les petits garçons, prenons cet exemple des piscines.
Vous dire,
pour
on y
tous
va
les petits garçons qui ne veulent en aucun cas se changer devant les autres, c'était quand même des douches communes où il y a quelques personnes qui viennent de régions plus sauvages où le froid est intense et les poils apparaissent relativement plus vite. Et donc tu as un type du même âge que toi qui est déjà monté comme un âne avec beaucoup de poils alors que toi t'es glabre comme un tambourin et tu te dis je vais me tourner dans l'autre sens. Donc la piscine a toujours été un problème. Donc tu peux dire je ne peux pas nager. Mais ça reste un luxe. Le vélo, ça n'a rien à voir. Le vélo, c'est un truc... D'abord, le vélo est ta première autonomie. Tu peux aller de là à là, c'est ce qui va remplacer. Si tu ne sais pas faire le vélo, tu ne sauras pas faire la mobylette. Mmh. Et donc, ça paraît simple dans le film. Tu te dis,
tout le monde met des petites roulettes. Moi, personnellement, j'ai pas appris des roulettes. Et tu te dis, merde, c'est long alors qu'on a encore 3-4 chroniques. Non, 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 j'y vais. Non, je l'ai vu dans tes yeux.
Non, on est à l'antenne,
de toute façon. Non, je sais, j'ai décroché. Et le vélo, moi, j'ai appris que mon frère qui me poussait et tu tombes une fois, trois fois, quatre fois. Mais le vélo, c'est plus que ça. Le vélo, c'est quand même de dire, au moment où tu commences à pédaler, tu te dis, mais pourquoi j'ai eu tellement peur. La natation aussi. Tu mets la main au-dessous du ventre et tu dis, bouge deux fois, tu synchronises, arrête d'avoir peur. Et après, les choses qui paraissent tellement simples, comme respirer, te disent, et tu rentres dans la vie. Donc, mais le vélo, c'est quand même un truc qui est de l'ordre de l'équilibre, de vivre avec ce qui t'entoure, et tout à coup, en plus c'est exponentiel le vélo, tu donnes un coup de pédale, ça en vaut quatre.
Ouais.
Dans la natation, pas
est-ce
toujours.
Que, est-ce que tout sauf a si un sens dans ce qu'il vient de dire, est-ce que tout a un sens?
Et tu veux dire dans mon propos
ouais,
ou dans le film
ouais. Dans votre
vous voulez entendre quelqu'un qui donne du sens, du sens
oui,
à la vie
Bidoguin.
Vous voulez après Raoul Taburin,
juste
Thomas
après.
Bidoguin.
Mais voilà, c'est à moi. Et j'ai peur de rien et je reviens. C'est comme ça, moi, tant qu'on ne vient pas m'arrêter à l'ambassade du Venezuela, je suis là. Et voilà, donc je reviens pour vous parler de storytelling, c'est ça que je fais ici. Peu importe les incendies, les catastrophes, les images de fin du monde, je suis là. Tout va bien, Charline. Et je gère. Faut dire que les images d'hier soir étaient assez apocalyptiques. Les gens sortaient en courant de la cathédrale, le prêtre était en larmes, ma mère était atterrée, les gens pleuraient. On aurait dit mon premier mariage. Notre président lui-même, devant Notre-Dame, était catastrophé. Parce que, en fait, après Aéroport de Paris, c'était le prochain truc qu'il voulait vendre aux Chinois. Il était bien embêté. C'est vrai que c'était triste parce qu'en quelques heures, toute la collection de slips de scout de l'archevêché est partie en fumée. Et donc voilà, j'en fais une tonne sur Notre-Dame parce que, bien sûr, j'étais vraiment peiné hier soir. Et puis parce que, comme par hasard, aujourd'hui, c'est la Saint-Benoît. Bonne fête, Benoît. C'est une tradition goy. Et parce que votre esprit, lui aussi, est un chef-d'œuvre d'architecture gothique. Donc voilà. Et donc voilà, je reviens une fois de plus vous parler de toutes ces petites cigarettes de récit qu'on fume peinard à la sauvette en loose day sur un échafaudage et qu'on écrase du pied nonchalamment en pensant à autre chose, à la vue qu'on a de là-haut et que même les bourgeois, ils peuvent pas se la payer et qui, quelques heures plus tard, attisé par le cruel vent de l'histoire, forme le grand roman des incendies de Charpente et de leur cendre qui, ironiquement, retourne à la cendre. Sic transit gloria mundi, le storytelling, quoi. Et voilà, et le thème du jour dans le monde du storytelling, c'est une question. C'est le fameux « et si ?». Parce qu'on a toujours l'impression que c'est la grande question qu'on doit se poser quand on se propose de raconter une histoire. Et si ? Parce que « et si ?», c'est magique. Et si ? Ça sollicite l'imagination. Et si Bruce Willis arrivait avec son pistolet mitrailleur? Ben voilà, ça nous solutionnerait bien le troisième acte. Et si Vincent Lindon arrivait avec son burin à plâtre? Voilà. Et si on reformait Star Shooter? Voilà. Et si on reformait Vincent Lindon? Avec « et si », tout est possible. Et c'est ça le problème. Parce que dans le monde du storytelling, comme en amour d'ailleurs, quand tout est possible, plus rien n'a d'intérêt. C'est comme ça. « Et si », c'est trop large. C'est bien ce qu'on voit à gauche d'ailleurs pour les Européennes. Pas de récit structuré, donc tout est possible. Et si on choisissait Raphaël Glucksmann pour incarner l'espoir populaire du socialisme? Ben c'est bien la preuve que quand on n'a plus d'essence, on s'en fout de qui on met derrière le volant. C'est comme ça. Et si ça peut vous tuer un récit? Ça peut vous tuer une histoire d'amour? Et si ça ouvre trop de portes? Parce que quand on raconte une histoire, ce qu'on veut, c'est de refermer les portes. L'important pour construire un récit, c'est de définir un cadre, de savoir comment réfléchir, de s'interroger sur le type d'histoire qu'on veut raconter, son genre, son utilité, les sentiments qu'elle doit générer, à qui ça s'adresse. Et en se posant ces questions, on définit une boîte, un peu comme une boîte à chaussures. Et là, quand on se pose la question « et si ?», on sait si elle tombe, la réponse va tomber à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte. C'est un peu compliqué, mais je vais prendre un exemple. Vous voyez, les gilets jaunes, par exemple, ben, c'est du « et si ?» à l'état brut. Si, et si on vivait mieux, et si on faisait payer les riches, et si je prenais un sac Gucci dans la vitrine, et si on faisait des référendums quand j'ai envie, et si Macron démissionnait. Voilà, ça va dans tous les sens. On les regarde défiler, mais on voit bien qu'ils ont du mal à structurer le récit. Emmanuel Macron, lui, qui s'y connaît en storytelling, il comprend ça, il réfléchit. Et ce qu'il fait, c'est définir un cadre à l'histoire. Et il appelle ça le grand débat. Et là, comme par magie, tous les « et si ». Eh bien, ils tombent à l'intérieur de la boîte à chaussures. Et ils veulent quoi, alors, les Français? Eh bien, ils veulent moins d'impôts, moins de fonctionnaires, moins de normes, plus de liberté. Eh bien, ce qu'ils veulent, donc, en fait, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Et voilà, je les ai fait parler, eh bien, ils pensent comme moi. Ça, c'est du storytelling. Et voilà, Bourdieu disait que les sondages nous en apprennent plus sur ceux qui posent les questions que sur ceux qui y répondent. Et il n'avait pas complètement tort. Parce que avec des « et si », eh bien, tout ce qu'on arrive à faire, c'est mettre Paris en bouteille. Enfin, ce qu'il en reste.
Thomas Bidguin. Oh. Bravo. Oh. Oui, bravo. Bien brillant. Sûr, c'est brillant. Merci, Thomas.
Bon, ouais. Malheureusement, la chronique n'a pas été enregistrée. Il fallait vous en douter, on l'avait lu avant. Une fois de plus, on vous a demandé de la fermer. Vous ne la fermez pas. On passe tout de suite à autre chose.
Merci à toi. Benoît Poulevard.
Désolé.
On va prendre aucun risque dans cette émission. On va prendre aucun risque, on va tout de suite faire le sketch.
Mais oui, en fin d'émission, on propose un sketch.
On sait jamais.
Oui, oui, attention. Parce que pour l'instant, l'hypothèse la plus probable par rapport à hier, c'est un ouvrier qui aurait laissé un chalumeau sur...
D'accord. Voilà. Et pensons à cette terrible famille.
Et imaginons...
Et le type qui a regardé la télé en disant...
Ben non, c'est surtout que
j'ai pas laissé,
le type qui s'est réveillé ce matin, qui on a expliqué ce qui s'est passé, ça, c'est vous. Et l'entretien de la police est conduit par Charline et le commissaire Meurice.
Et vous m'appelez au téléphone ou vous me parlez?
Non, vous êtes en face.
Je suis la police, moi.
Ouais, vous êtes la police.
Et je ne sais pas encore.
Vous le savez.
Je ne sais pas encore.
Okay. Mon petit gars, ça va chauffer pour vous.
Pardon?
Pour encore?
Votre nom, s'il vous plaît.
Oui, ben...
Comme le réalisateur?
Non, le barbecue.
Mais comme par hasard. Vous étiez où lundi 15 avril à 18h?
Chantier de Notre-Dame.
Je confirme. Je confirme.
Pardon?
Vous êtes
Butagaz, Robert Butagaz.
Et donc, 18h?
Oui, 18h, c'était l'heure de l'apéro avec les collègues.
Et vous avez rien remarqué de particulier?
Ah, si, il faisait un peu chaud.
Non. Il faisait chaud parce qu'on a eu un petit coup de chaud parce qu'ils ont été à la troisième bouteille de Ricard.
Pas d'odeur particulière?
Si, petite odeur de sainteté.
Forcément, à Notre-Dame, il est marrant. Concentrez-vous.
Sur quelle partie du chantier étiez-vous?
Sur la charpente en bois, je faisais de la soudure.
Avec
Chalumeau. Chalumeau. Ah, autant pour moi.
Bernard Chalumeau.
Bernard Chalumeau. Chalumeau.
Ah oui, et c'est là que je lui ai dit de venir pour l'apéro.
Même que je vais appliquer tout de suite.
Bon, vous m'avez l'air de sacrée flèche, là, tous les deux.
Mais comme ça, il nous reste une flèche au moins. Hein. Enfin, pardon.
Ouais. Et après?
Et bien après, je me souviens plus très bien. Parce que c'était... Parce que bon, c'est... l'apéro, c'est...
T'es bouillant, quoi.
Il n'y a pas que vous, regardez la cathédrale, là.
Attendez, quelle est la 1700? J'ai quoi, 1709?
Non, ça... hier soir, vers 21h.
Bah attendez, est-ce que vous vous souvenez d'avoir éteint le chalumeau?
Maintenant vous le dites. Non. Et là vous avez raison parce que je ne suis pas convaincu.
Ouais, bah, et nous non plus.
Vous avez quelque chose un peu pour la tête, un AK-7Z ou... Et le montant des... Le montant des dégâts.
Bah, j'espère que vous avez un bon PEL, quoi.
Non, honnêtement, si j'avais su, j'aurais coupé le chalumeau. Honnêtement, je me dis...
Quand tu vois ce que ça donne, je te confirme que tu aurais dû. Hein.
Bon, sinon vous avez d'autres engagements professionnels dans les semaines qui viennent, là?
Mais écoutez, oui, je suis censé travailler sur le chantier Jeanne d'Arc, mais je...
Ah bah oui, bah là vous avez les compétences, hein,
bah bravo. Et bah on va tout refaire une première fois.
Ça c'était une bonne première lecture.
C'était pas mal.
Tout de suite, des gens vont s'éliminer demain. Où est-ce que je monte du doigt?
Benoît Poulevard.
Vous m'obligez à la dénonciation? Non.
Il s'est reconnu, Guillaume, bien sûr.
Rien n'est plus beau que les gens qui... par eux-mêmes se rendre compte, je devrais arrêter. L'envie de bien faire ne suffit pas, ma petite chérie.
Dites-moi, mon petit chou à la crème, Benoît. Raoul Taburin, on le voit à différents âges dans le film. Donc, on a dû faire un casting où vous êtes à différents âges, plus jeune, etc. Quand vous avez découvert le casting, vous avez pensé à...
Non, c'est hyper mignon. En plus, ils étaient là hier soir. Et là, je reconnais bien la maman. Et donc, c'était très mignon, parce que... Une des particularités du film, c'est que pour faire tenir tout le film sur un seul personnage, puisque dans le bouquin de Sampé, c'est un petit garçon qui ne sait pas faire le vélo, et il grandit avec son mensonge, donc il a fallu faire toutes les étapes. Alors, une des facilités, c'est de donner tout le temps la même salopette. Donc il a la même salopette, les mêmes chaussures. Et pour moi, c'était extrêmement mignon, parce que j'ai eu 4 générations de petits-enfants, avec des grandes oreilles, des petites. Et le problème n'était pas tant qu'il ressemble au personnage de Sampé, mais qu'il me ressemble. Ouais. Alors c'est très marrant, parce que t'es obligé de discuter avec les gamins qui disent « On m'a choisi parce que je suis toi quand t'étais petit, pas mon fils, toi quand t'étais petit !» Donc c'est très compliqué. Alors hier, j'étais sur la scène avec eux, je leur dis « Alors ça fait quoi de... »
et toi petit. Mais je dis,
est-ce qu'ils auraient préféré être Edouard Herbert petit, en fait, ils ont mal vécu?
Je pourrais pas. Parce qu'Edouard n'a jamais été grand.
Ah, oui,
Benoît Poulvourde, merci d'avoir passé cet excellent moment avec nous. On était ravis.
J'ai mis du temps, mais parce qu'on est, collaborateurs, j'ai dit, ça va faire un peu compagnonnage.
Mais oui, évidemment.
Et on va dire, vous les Belges, vous allez nous bouffer le métier. Vous savez, ils sont un petit peu énervés en ce moment. Bouffent par les Français.
Paris, c'est la banlieue de Bruxelles.
Et je me fais tout petit maintenant.
Très bien.
Raoul Taburin.
C'est pas encore flagrant.
Raoul Taburin a un secret de Pierre Godot. Notez bien le titre de ce film qui est magnifique, d'après l'œuvre de Sampé, qui sort en salle demain avec notamment Édouard Baird, Suzanne Clément, Grégory Gadebois, Victor Assier ou Yona Bachelier, entre autres. Merci beaucoup. Eh bien, on va se retrouver demain avec Olivier Barou et le mot de la fin, on va le laisser à Raoul Taburin.
Non, Taburin, bébé. Un Taburin, tu sais ce que c'est? Clac, clac, c'est une soirée.
C'est un tambourin.